Actu SF, les podcasts.
J'enchaîne avec donc une communication sur la science-fiction arabe. J'ai mené des recherches sur la science-fiction, sur l'anticipation utopique et dystopique de 2004. Donc jusqu'à aujourd'hui, je m'intéresse à la question de l'anticipation dans la science-fiction. Et là, je vais essayer de parler de la science-fiction dans les pays arabes. Alors, on va découvrir ensemble. Donc, peut-on parler de la SF arabe ? La science-fiction a vu le jour en Occident, ça on le sait tous, et elle demeure encore dans la pensée de la plupart une littérature typiquement occidentale. Alors, dans une anthologie intitulée « The Penguin World Omnibus of Science Fiction » en 1986, les éditeurs mentionnent qu'ils n'ont pas trouvé un seul écrit arabe de SF. Serait-ce alors un genre inexistant, ou pas encore écrit ? Un « written Arabic fiction », c'est dans cette catégorie que Pierre Kasher place la littérature de science-fiction arabe. Mais jusqu'à quel point ces affirmations sont-elles vraies ? Plus de 40 volumes ont été publiés dans différents pays arabes entre 1950 et 1990. De 1950 à 1960, on ne trouve pas de mention explicite à la formule science-fiction ou science-fiction, on parle plutôt d'un nouveau genre littéraire. De 1960 à 1978 est apparue la notion de roman scientifique, al-riwaya al-ilmiya. Après 1978, le terme de science-fiction, khayal almi, a été définitivement adopté par les auteurs et les éditeurs. Jusqu'à nos jours, des centaines de textes de SF ont été publiés, donc pas moyen de dire que la SF arabe n'existe pas. Elle existe et elle a son historique. La formule arabe de khayal almi est une traduction de la formule anglaise, ou se veut une traduction de la formule anglaise science-fiction, mais elle reprend l'expression française. Fiction scientifique, donc une traduction mot à mot donnerait fiction scientifique et non pas science-fiction. Dans la traduction arabe, le substantif khayal, fiction, est qualifié de almi, donc de scientifique. Une traduction mot à mot donnerait al-ilm at-takhili, donc science-fiction, alors que ce n'est pas le cas, c'est khayal almi, donc. La fiction, elle devance la science dans la composition du label, donc dans la formation du label. Cependant, l'antéposition du terme khayal pourrait dévoiler des enjeux socioculturels. Alors, les enjeux socioculturels, en fait, lorsqu'on a analysé les mille et une nuits ou des passages des mille et une nuits, donc nous allons retrouver peut-être une explication à cette antéposition, pourquoi la fiction devance la science dans ce label. Je vais vous parler de la proto-science-fiction arabe. Alors, je vais reprendre un texte de Al-Qazwini et qui date du 9e siècle. Alors, son récit, c'est un récit de voyage intitulé « Les merveilles des créatures ». Il parle, et c'est peut-être pour la première fois dans les textes arabes, d'un géant extraterrestre, Aywaj ibn Alan, qui s'est attaqué à Moïse. Prophète Moïse. Et là, on retrouve une représentation de cet extraterrestre. Le récit de voyage de Al-Masoudi, donc prairie d'or et mine de joyaux, écrit au 9e siècle aussi, traduit en français en 1872 et en anglais en 1841. Alors, il y a un passage qui est vraiment pertinent. Où l'on décrit une invention d'Alexandre le Grand. Et donc, comment il invente, je ne vais pas dire un sous-marin, mais il y a l'imaginaire de ce qu'on pourrait appeler un sous-marin. Il s'agit d'un grand cercueil en bois, 5 mètres de longueur et 2 mètres et demi de largeur, incrusté de verre. Donc, Alexandre le Grand aurait ordonné d'incruster des parties en verre sur les côtés, Alexandre et deux de ses meilleurs dessinateurs se sont enfermés dedans après avoir donné l'ordre de sceller le cercueil avec du plomb et de le charger de pierres et de fer. Avec de longues cordes, le cercueil a été suspendu à deux grands navires et attaché donc à deux gigantesques navires. Ensuite, le cercueil a été projeté dans la mer et a atterri au fond. Et là, Alexandre le Grand, avec ses deux dessinateurs, ont pu voir et découvrir une vie sous-marine où il y a des créatures étranges avec des corps d'animaux, des têtes d'hommes. Et donc là, c'est plus fantastique que de l'imaginaire proto-science-fictionnel, si on ose dire. Mais l'image de cette... le fait de penser... à cette logique pour créer ou pour transformer le cercueil en sorte de sous-marin est intéressante. Les mille et une nuits, histoire du cheval en ivoire et en bois conçu par un savant. Et là aussi, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il s'agit d'un cheval mécanique qui a un fonctionnement intéressant. Avec une sorte de manette que le voyageur touche le cheval d'épaule en laissant échapper des poussées d'air de sa bouche. Par le biais d'un bouton qui a la forme d'une tête de coq sur l'épaule droite de Longin, et là je me permets de dire Longin parce que franchement tout me permet de le dire, hein, il peut augmenter la vitesse et par un autre bouton sur l'autre épaule, il peut descendre. Donc, il y a la science n'existait pas en tant que imaginaire développé invention, création d'engins, etc. Mais l'imaginaire, il a devancé. Et là, on voit très bien que c'est la logique qui structure cet imaginaire qui nous intéresse. Alors, là, c'est une traduction en français. Et on voit l'image de ce cheval en bois, bon, qui n'est pas très très bien illustré parce que le dessinateur n'a pas mis en valeur donc les deux boutons, comment ça fonctionne. C'est dommage pour l'illustration. Alors, lorsqu'on a étudié la proto-science-fiction arabe, nous sommes intéressés à la question suivante. Pourquoi il y a un creux, pourquoi il y a un vide entre cette proto-science-fiction, donc qui date du 9e, 10e jusqu'au 12e, 13e siècle. Les derniers textes, on peut trouver traces de cet imaginaire de la proto-science-fiction. Et le 19e siècle, du 13e siècle au 19e siècle, nous n'avons pas trouvé réellement de textes qui pourrait être classé dans cette catégorie de textes. Alors nous nous sommes intéressés à la littérature turque pour voir quelle sorte d'influence elle aurait exercée sur la littérature arabe, sachant que les pays arabes ont été colonisés par les Ottomans. Et donc on va essayer de voir, et on a quand même pu avoir quelques conclusions. Alors, le livre d'Iskander et certains passages du livre des voyages d'Evliya Çelebi de 1611 à 1682 pourraient être le chaînon manquant dans l'histoire du genre. Télépathie, téléportation sont des thèmes traditionnels dans les écrits de l'époque. Oui, les textes turcs en ont parlé donc, au XVIIe siècle et relèvent du merveilleux extraordinaire. Donc c'est l'appellation qu'on donnait à ces textes, sont des textes qui relèvent du merveilleux extraordinaire. C'est là Nuri El-Eri, avec son texte « Histoire de l'avenir » publié en 1914, le Mona David Mustafa Nadim, qui a écrit un texte capital, le progrès en rêve ou bien la vision de la civilisation islamique. Alors, ces textes ont quelque chose de spécifique. C'est que lorsqu'on imagine le futur, On l'imagine via un rêve, c'est-à-dire sur le plan narratif, le narrateur il s'endort et il vit toute cette histoire imaginaire à travers le rêve. Et c'est justement cette technique narrative qu'on va retrouver plus tard, ou à peu près dans la même époque, dans quelques textes arabes. Et peut-être que, je ne sais pas si on peut parler d'une influence, d'une histoire d'influence, ou pas, mais c'est un constat que nous avons démontré. Vers la fin du XIXe siècle, la culture occidentale devient un objet de curiosité, et les traductions qu'on a fait des textes de Jules Verne en témoignent. Donc Laurent Mignon affirme que ces textes ont été reçus avec intérêt indéniable par les lecteurs ottomans. Donc au XIXe siècle, il y avait un mouvement de traduction des textes de Jules Verne en Turquie. Et au niveau de la réception, ils étaient bien reçus. Et là, peut-être qu'on peut construire toute une logique derrière. Le roman de Jules Verne, 20 milieux sur les mers, a été le premier texte publié en Turquie ottomane en 1890. En parallèle, nous avons retrouvé des traces d'utopie arabe qui datent du fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Des textes utopiques arabes surgissent à peu près à la même époque, donc annonçant l'émergence tardive de la SF. La SF ne va réellement émerger que vers 1950. Francis Al-Malach, avec son texte « Forêt de la vérité », publié en 1865 à Alep, en Syrie. Adib Isaac, La Nouvelle Ère, édité en 1879 et reprise donc en 1978. Farah Antoine, Religion, Science et Argent, ou Les Trois Cités. C'est un texte qui a été édité au Liban en 1903. Moussa Salem, Introduction à une utopie égyptienne, donc en 1924. Et là, justement, le dernier texte de Moussa Salem, c'est une réelle anticipation utopique où l'on retrouve tout un imaginaire qui porte sur l'anticipation, avec des dates, avec un imaginaire même scientifique extraordinaire. Là, imaginez une sorte d'internet, de communication via des écrans. Et ça, je vais en parler samedi dans ma conférence sur les utopies, donc avec plus de détails. Juste une remarque. Donc, ces textes utopiques qui vont en parallèle avec les textes ottomans du merveilleux scientifique, de l'extraordinaire, de l'utopie, donc, ces trois types de textes ont coexisté à la même époque et certainement il y a eu des histoires d'influence. Et on va voir même que dans les pays arabes, il va y avoir un mouvement de traduction assez important au début du XXe siècle d'auteurs, donc de fameux auteurs comme Verne, Noël, Asimov, etc. Alors, naissance et institution de la science-fiction arabe. On estime que c'est en Égypte, au cours des années 50, que la science-fiction à proprement parler a vu le jour, ce qui nous amènerait à même de parler d'une école de science-fiction égyptienne. Une production beaucoup moins importante est à signaler dans d'autres pays arabes. Alors, les précurseurs, nous avons Tawfiq al-Hakim, c'est un très grand philosophe égyptien qui a écrit La nourriture à toutes les bouches en 1963. Et il a cité dans ce texte les noms d'Oels et de Jules Verne. Ce qui est très intéressant, parce que ce n'est pas un texte de science-fiction, mais c'est un texte qui réfléchit sur les possibilités de voir le monde, trouver des solutions à la famine, à la question de la famine, etc. Et en pensant à cette problématique, il évoque Verne et Wells. Selon Rovinsnir, le mouvement de traduction aurait débuté fin des années 72, mais ce n'est pas vrai. Nous avons trouvé que les premières traductions remontent à 1946, les romans de Wells, de Jules Verne, des traductions d'Asimov des années plus tard. Donc j'ai un tableau, je pourrais vous le montrer ensuite. Toutefois, la traduction n'a été massive qu'après les années 60. Donc, si on reprend la logique de cette histoire, on a de la proto-science-fiction du 9e au 13e siècle. Du 13e au 19e, on a un vide que je n'ai pas pu expliquer, donc je n'ai pas retrouvé de traces de texte du 13e au 19e. Au 19e, émergent des romans utopiques en Turquie et dans les pays arabes, notamment en Égypte, en Syrie et au Liban. Les premiers textes, à proprement dit, ne vont être édités que vers la moitié du XXe siècle. Donc, c'est l'histoire que nous avons pu recomposer. Alors, les précurseurs. L'An Million, c'est une nouvelle parue en 1953 dans un recueil de nouvelles intitulé « Montre-moi Dieu ». Bon, c'est un peu étonnant. L'auteur nous donne à voir une image de l'humanité. Après un million d'années, l'éclatement de guerres bactériologiques et nucléaires a entièrement détruit l'écosystème et a ravagé la Terre. L'homme, pour survivre, s'est réfugié dans des grottes et a fini par construire une cité souterraine. Mais le nouveau monde, mode de vie, lui donne au fil du temps une nouvelle allure, une nouvelle nature et un physique différent. Donc il sera quelqu'un de très fin, avec la tête très grosse. Cette nouvelle se prête à une réflexion philosophique sur le progrès, le religieux et la nature humaine. Justement, ce texte, je vais aussi en parler samedi. Pourquoi ? Parce que la question religieuse, elle est centrale. Et le traitement que ce philosophe en fait est vraiment pertinent. On va le voir samedi. Alors, réflexion qui trouve sa continuité dans une autre pièce de théâtre, Voyage au monde de demain, publié en 1957. Il s'agit d'un voyage effectué à bord d'un vaisseau spatial égyptien qui transporte deux scientifiques condamnés à mort vers une planète métallique. Donc la punition, c'est quoi ? On ne va pas les condamner à mort, mais ils vont faire, ce sont des scientifiques, tant qu'à faire, ils vont explorer des planètes lointaines avec une possibilité de non-retour. Ils rentrent sur Terre 300 ans plus tard. La vie s'est complètement transformée avec la disparition définitive de la famille. Et encore une fois, on retrouve vraiment, c'est un thème qui préoccupe l'auteur philosophe. Donc, la fin de la famine et des guerres, monde pacifique qui a répudié à jamais la hantise des temps anciens, sanguinaires et barbares. Donc, ça y est, on a vraiment un monde qui est bien parti, tout est bien, il y a la paix, etc. À travers cette pièce, qui est une pièce de théâtre, à travers cette pièce, Al-Hakim expose une pensée fondatrice de sa philosophie humaniste, progressiste. Le texte, il est vraiment très, très intéressant. Il a été traduit en français dans les années 80, je crois. D'ailleurs, il s'agit bel et bien d'un paradis, quoique artificiel. Et là, je parle toujours de Al-Hakim et de cette pièce de théâtre. D'un paradis quoique artificiel, puisque l'auteur reprend des archétypes du paradis musulman. Eau des rivières de Laban, lait, et de miel coule à volonté. Ça, c'est donc l'archétype, donc l'imaginaire du paradis musulman. Et dans le paradis, dans la cité utopique imaginée par le philosophe, le progrès oblige, le thé, le café et la soupe aussi coulent à flot dans les veines des tuyaux en métal installés partout dans chaque maison. Donc dans chaque maison, on a tout, vraiment, on a vraiment tout. Hein. Ensuite, on va parler du texte de Mostafa Mahmoud qui nous décrit dans l'araignée des expériences scientifiques sur le cerveau humain menées par un ingénieur en électricité. Expérience fabuleuse, mais aussi atroce, qui lui révèle la possibilité de vivre dans d'autres dimensions du temps et de l'espace. Et Mostafa Mahmoud, c'est un scientifique très très connu en Égypte et qui a contribué à la vulgarisation de la science, qui a fait vraiment beaucoup de choses dans ce sens-là. Et là, on va passer aux pionniers. Les pionniers ont le grand pionnier de la science-fiction arabe, c'est Nihed Shalif. C'est un auteur égyptien de science-fiction. Alors, Nihed Shalif Il a publié vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, mais au début, il les a publiés sous le label roman scientifique et non pas fiction scientifique. D'accord ? Dans Qahr az-Zaman, le vainqueur du temps, publié en 1972, un vieux manuscrit est retrouvé en Égypte qui raconte l'histoire d'un savant fou qui a désespérément cherché l'éternité. Et ce texte, il va être repris au cinéma. Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir la connexion, mais j'ai prévu de vous montrer quelques scènes. C'est très intéressant de voir comment le film a été, a été mis en scène et enfin a été conçu par le réalisateur. C'est une des premières ou des premiers essais au cinéma. Mais l'éternité étant une idée qui contredit le discours religieux, et là encore on retrouve la question de la religion, où seul Dieu a droit à l'immortalité, les expériences n'ont pas abouti et un grand feu a mis fin à la vie du savant. C'est un feu purificateur. Et là, il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est que dans les récits, dans certains récits d'Émile et une nuit, où il y a de la proto-science-fiction, par exemple, dans un de ces récits, on retrouve une créature en cuivre et qui est très très proche du concept du robot, mais une fois qu'on invoque le nom de Dieu, cette créature devient très agressive et essaye de tuer la personne qui prononce le nom de Dieu. On a l'impression qu'il y a une contradiction entre tout ce qui échappe au savoir humain, à la compréhension humaine, est placé du côté du mal, c'est maléfique, et donc il contredit le nom de Dieu ne devrait pas être cité, etc. Donc moi, ça m'a vraiment intrigué, cette opposition entre cet imaginaire extraordinaire et la question religieuse, et on retrouve la trace de cette problématique dans le texte de Nihed Shalif. Alors, l'un des plus des best-sellers de Nihed Shalif, donc « Sokel Alm Feni, les habitants du deuxième monde », publié en 1977, roman d'anticipation, placé dans le contexte de la guerre froide, qui s'ouvre sur un message des habitants d'une cité sous-marine adressé aux forces armées des États-Unis, de l'URSS et de la Chine pour mettre fin au conflit. Mais la fin du roman, elle est dramatique et montre l'arrogance des pays dits développés qui exterminent les habitants de la cité sous-marine. Et donc là, dans ce texte, l'auteur réfléchit réellement à des sujets d'actualité, de suprématie des pays développés sur les pays sous-développés. Moussa Sabré, dans Le Seigneur des Champs des Épinards, nous projette vers le XXIe siècle où l'on se retrouve dans une cité dite utopique. Homo, le personnage principal, se révolte et rejette la vie qui lui est offerte. Sa révolte le pousse à quitter la ville artificielle à la recherche d'un bonheur authentique. Mais il découvre qu'il a commis une erreur et revient sur sa dissidence. Et on voit vers la fin du roman, Homo qui est en train de toquer sur la porte, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'ai commis une erreur monumentale, votre cité elle est la meilleure et je veux accéder à cette cité. Mais non, le rejet est définitif. En 1987, Iyab al-Azhari aborde un nouvel horizon dans la littérature de science-fiction arabe, jusque-là peu explorée, qui est la conquête de l'espace. Alors, La planète maudite est un roman qu'on pourrait considérer comme étant l'œuvre fondatrice qui a préparé l'émergence d'un nouveau genre de science-fiction arabe qui est l'utopie militaire. Et là, c'est un genre vraiment à part et je vais en parler tout à l'heure. Dans ce roman, donc La planète maudite, un savant égyptien découvre une chambre secrète près des pyramides qui contient toutes les pièces d'un vaisseau spatial. Ils ont même trouvé du carburant avec une équipe égyptienne. Et le nom des scientifiques, font référence à des scientifiques et philosophes de la Renaissance arabe, et c'est symbolique. a été donc mobilisé afin d'effectuer un voyage interplanétaire à destination de Mars. Les cosmonautes entrent alors en contact avec les Martiens et apprennent qu'une guerre nucléaire a détruit la vie sur la surface de la planète rouge, ce qui a obligé les Martiens à se retirer dans les sous-sols. Mais leur despote, Sam U, le second, a transformé ces lieux en un enfer. Et c'est aux Égyptiens qui viennent de débarquer sur Mars de les aider pour libérer le peuple martien. Et là, on retrouve un peu du space opéra. Dans le roman apparaît une nouvelle image, celle des héros de l'espace. L'auteur fait des personnages égyptiens les héros de la libération martienne. Dans cette même lignée idéologique, nous trouvons Nabil Farouk et ses utopies militaires. Et là, c'est un véritable, comment dire, c'est une véritable transformation dans l'histoire de la science-fiction arabe avec Nabil Farouk, et on va vraiment voir ce qu'il a fait. Oui, mais il a fait vraiment beaucoup de choses. Il s'agit d'un phénomène particulier de la littérature arabophone de production, d'édition et de réception. C'est ce qui est d'exceptionnel. En 1886, un jeune auteur égyptien se lance dans une véritable aventure éditoriale. C'est pour la première fois que l'on spécifie sur le quatrième de couverture d'une collection qu'il s'agit d'un genre particulier, Khayal Almi, fiction scientifique. Donc, ça, c'est un des numéros. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ces numéros-là, on retrouve Volet du futur, et sur le quatrième de couverture, on retrouve Volet du futur, édition de romans pour adolescents, jeunes et adolescents, de la science-fiction. Donc là, le label science-fiction apparaît de manière claire et nette. À partir de 1986, c'est le premier numéro, donc il a été édité en 1986. D'un autre côté, la production massive et périodique de ce genre de roman, sur la plume d'un seul auteur et dans la même édition, édition de la Fondation Arabe Moderne, représente une exception dans les milieux culturels arabes. Malheureusement, la série s'est arrêtée, mais on compte 150 volumes. Et c'est pour ça que je dis, il a fait vraiment quelque chose d'énorme. Ces textes ont été lus de manière massive par les jeunes dans les années fin 80, 90, début des années 2000. C'était très très lu dans les pays arabes. Personnellement, je les avais lus à un âge très très jeune et ils m'ont vraiment marqué. L'avantage de ces textes, c'est qu'ils ont vulgarisé la science. Il y a beaucoup de concepts scientifiques qui sont expliqués en notes de bas de page, lorsqu'on parle par exemple de vaisseau spatial, de vitesse, de carburant, etc. L'auteur, il explique. C'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est le côté vulgarisation de la science. Alors, là, ce sont des échantillons de couverture dans cette collection. Et là, vous voyez donc que ça parle réellement de SF. Hein. Alors, l'un des autres pionniers, on le retrouve en Syrie. Et c'est Tal Bamran qui a créé aussi une série SF. Et là, ce qui est intéressant par rapport à Nabil Farouk et à... je vais ramener le texte de Tal Bamran, c'est que ces deux auteurs, ils ont instauré une tradition de série, ce qui n'existait pas auparavant. Et donc, Tal Bamran a créé une série SF, organisé la première convention de SF arabe en 2007, qui est coordinateur d'une revue de science-fiction, organisateur de trois colloques internationaux sur la science-fiction en Syrie et en Égypte. Alors, c'est une revue mensuelle qui est éditée en Syrie jusqu'à aujourd'hui, donc de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Tal Bamran, donc, qui est responsable de cette revue, il continue à éditer la revue, ce que je trouve extraordinaire. Et ce qui est bien, c'est que il y a le ministère de la Culture qui soutient cette édition. Et donc, il y a de l'espoir. Et donc ces textes tournent autour des voyages dans l'espace, exploration de planètes, de dystopies, aux fictions cauchemardesques. Et là, je parle de fictions cauchemardesques, pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de dystopie dans le contexte occidental, dans le contexte arabe, on parle de romans cauchemardesques ou d'anticipations cauchemardesques. Pourquoi ? Parce que l'archétype du rêve que nous retrouvons dans les utopies, il est aussi repris dans les dystopies. Ça veut dire que l'auteur, il s'endort, et c'est à travers le rêve qu'il voyage dans le temps et qu'il voit ou qu'il vit cette dystopie-là. Et donc, la notion de cauchemar y est présente. Des fois, lorsqu'on traduit, on hésite, lorsqu'on parle de ces textes-là, est-ce qu'on dit des textes dystopiques ou des textes d'anticipation cauchemardesque qui est plus proche de la spécificité de ces textes-là. Et donc, Tal Bamran a été primé par l'Alexou en 2009 pour son texte « Les temps ténébreux », qui est un texte très, très cauchemardesque. Et en l'ayant lu en 2007, aujourd'hui, je me dis, il n'aurait pas dû l'écrire. Parce qu'il décrit réellement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est impressionnant. C'est vraiment à la limite, il ne faut plus arrêter, il faut arrêter de décrire des dystopies. Hein, c'est affreux. Alors, oui, il y a Léna Kileni, qui a écrit, c'est une femme auteure, qui a écrit beaucoup de récits de SF pour enfants et adolescents. Elle vit en Égypte, et elle se fait publier en Égypte et en Syrie. Dans les pays du Golfe. Alors, nous retrouvons un auteur de science-fiction en Arabie Saoudite, Ashraf Al-Fakir, qui a édité quelques textes, y compris un recueil de nouvelles « Nostalgie des étoiles ». Mais après, il a arrêté, en fait. Il n'a pas vraiment écrit beaucoup de choses. Il a écrit 3 textes, et ça, c'est son best-seller. Au Koweït, on a l'écrivaine Tiba Al-Ibrahim, qui a écrit une excellente trilogie féministe sur le clonage, qui permet aux femmes de se clouner et d'exterminer les hommes, source de guerre et de malheur. Donc, oui, mais c'est impressionnant, hein. Cette trilogie, le premier numéro, elle a écrit en 1966, mais n'a été publiée que dans les années 80, et elle a continué donc sa trilogie jusqu'aux années, fin des années 90. Et donc, ces 3 romans ont été écrits de 1966 jusqu'à 1996, je crois. Mais c'est vraiment une très très belle trilogie qui est impressionnante. Il y a une puissance d'écriture extraordinaire dans ces textes-là. Aux Émirats. Alors, on a Manden, Ajouen et Saïdounia. Donc, je suis désolée, je n'ai pas écrit en français. Alors, c'est aussi une trilogie. Et ça, c'est l'auteur Noura Nourman. Et donc, c'est une écrivaine qui a vraiment choisi d'écrire de la science-fiction et qui se réclame. Elle dit « J'écris de la science-fiction ». Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc, sa trilogie, le dernier volume de sa trilogie a été édité en 2013, donc c'est tout récent. En Tunisie, en 1930, on a un texte assez intéressant, « Le continent perdu » de Sadr Al-Rezghi, édité en 1930, mais ce texte, il n'a pas été publié, il a émergé dans les années 80. Donc il n'a pas été publié en 1930, mais il a été écrit en 1930. 1977, Taïb Triki, le Sindibad de l'espace. Alors c'est ça. Et on voit très bien le lien entre les récits des mille et une nuits et la transformation sous la plume d'un auteur de science-fiction en Sindibad de l'espace, où l'on raconte des histoires qui se passent dans d'autres planètes, etc. Nous considérons comme principal fondateur du genre Hedy Thabet, qui a publié Rar al-Jinn, ou La grotte des djinns, Jabal al-Ayn, ou La montagne al-Ayn, et là il parle d'extraterrestres. Hein. Dans ces textes, il parle donc ces quatre romans sont reliés par une seule thématique qui est la présence des extraterrestres venus de Ganymède pour aider l'humanité à trouver la paix, à trouver la sérénité. Et l'auteur, il pose des questions philosophiques pour questionner la religion ou pour démontrer les limites d'une certaine pensée religieuse, etc. Donc c'est vraiment très très philosophique. Donc cet auteur, il a écrit aussi « Si Hannibal revenait ». J'ai hésité à classer ce texte. Des fois, il me semble que c'est de l'Uchronie. Des fois, non, parce que, comment dire, il y a des éléments assez mitigés dans son texte, mais c'est un texte très intéressant. Et il imagine que Hannibal, il revient et il retrouve Carthage en ruine. Et en retrouvant Carthage en ruine, on a toute sa déception et on a toutes ces interrogations. Pourquoi on en est là? Pourquoi la Tunisie actuelle, elle ne renoue pas avec son passé? Et vers la fin du roman, il entreprend quand même une action de résistance. Il va essayer de transformer ce qui est, et il va essayer de créer un mouvement de masse pour lutter contre l'hégémonie états-unienne, etc. Et le dernier de ces textes de science-fiction, Le Temple de Tanit, qui est aussi quelque part, on retrouve le regain des mêmes thématiques qui ont été exploitées dans les autres textes. En 2004, Mostafa Kilani, avec Miroir des Heures Mortes, il ne se prononce pas en tant que qu'auteur de science-fiction. Mais son texte, c'est de l'anticipation, c'est placé dans un futur lointain, et il décrit une Tunisie qui est accablée par un dictateur. Et là, c'est une critique, c'est une politique fiction, où à l'époque, il critiquait le régime politique de Ben Ali pour montrer à quel point c'était étouffant. C'était étouffant au point où le citoyen ne trouvait plus d'air à respirer. Pour respirer, il fallait acheter de l'oxygène et il fallait se déplacer avec des masques à oxygène. Une fois on n'a pas les moyens de le faire, on meurt en pleine vue. C'est vraiment très très dystopique. Et donc en 2005, Ablaz Boulfrouja écrit son roman 2103, Le retour de l'éléphant. Le roman s'ouvre sur la description de la République de Carthage en 2103. Et là, je vais amplement parler samedi. Et c'est une utopie extraordinaire, très très amusante, et qui montre, qui joue sur l'inversement de l'histoire actuelle. En 2006, Zafer Neji écrit un recueil de nouvelles, Les Choses. Sous-titre significatif, quatre récits très imaginatifs qui pourraient se réaliser dans un siècle. Alors, le premier récit, La langue interdite, il décrit un monde futuriste, dystopique. En 2092, le monde arabe ayant disparu, la langue arabe fut interdite, et ce depuis 2003. Bon. Espérons que les générations qui vont lire ça en 2092, ils ne vont pas trouver des choses qui sont réalisées entre temps. Alors, en Algérie, en 1962, on a Mohamed Dib, qui se souvient de la mer, donc c'est un texte qui a été écrit en français. Faisal Ahmar Amin Alouen, Nabil Dadwa, Voyage à Vénus. Faisal Ahmar et Nabil Dadwa ont fondé en 94-96 un club de science-fiction, mais il va certainement en parler tout à l'heure. Le premier en son genre, réunissant les auteurs qui se font publier de manière éparse. Et c'est vraiment la seule, comment dire, la seule initiative que j'ai retrouvée dans les pays arabes. Donc c'est le seul club qui a été fondé en Algérie, un club de science-fiction, pour essayer de réunir les auteurs de SF. En 2008, une première pièce de théâtre inspirée du roman de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, est jouée par le Théâtre National Algérien. Oui. Au Maroc, en 1957, Abdeslam El-Bakali écrit un recueil de nouvelles SF. Ahmed Bakri Sibéi, Creusé de la vie, c'est un roman qui a été primé. Mohamed Hadabi, Élixir de la vie en 1974. En 1976, Abdeslam El-Bakali, Le déluge bleu, œuvre incontournable dans le sens où c'est une utopie, dystopie, c'est un texte qui est composé de deux parties, une première partie utopique et vraiment la deuxième moitié du texte, du roman, elle est dystopique. Et je crois que je vais aussi en parler samedi. 1987, Abdeslam El-Bakali écrit aussi Ville sous-marine. En 2008, Abdesamad Razoueni, H, roman intitulé H, tout simplement, et il parle d'une découverte scientifique qui permet au personnage principal de vivre l'immortalité. 2013, Khaled Yarboudi voyage à Sagittarius, et c'est une uchronie où l'on montre, enfin, il essaye d'imaginer le monde autrement, en revenant au passé. Il essaye de changer l'histoire du Maroc en revenant en faisant un voyage temporel pour essayer de changer le présent à travers le passé. Et si ça aurait pu être autrement. Du côté de la critique arabe, avant les années 90, il n'y avait pas de secteur éditorial spécialisé pour la SF, ni des collections comme c'est le cas en Occident. Les romans de SF arabes se fondaient sous différentes appellations dans le moule de la littérature de fiction. À part, et je mets à part les romans, enfin l'utopie militaire. C'est une édition spéciale. Je ne parle pas de ça. Je parle des écrits de SF, mais qui ne portaient pas, dans la plupart, le label SF. À partir du moment où l'on a consacré une collection à part entière à la SF, la critique a pris sa distance de cette littérature. Et c'est un peu vraiment étonnant. Parce qu'avant, par exemple, quand on a édité Sindibad de l'espace, quand on a édité, les autres textes, Nihed Sherif, Tawfiq al-Hakim, personne ne se posait des questions sur pourquoi on écrit ce genre. Mais à partir du moment où l'on a des séries spécialisées et largement commercialisées de SF, là, la critique a trouvé que c'est étrange, que c'est un style d'écriture occidentale et qu'on ne devrait pas accepter ça. C'est étonnant, parce que le label science-fiction a remonté, ou a créé une sorte de résistance à un genre qui existe déjà. A pris sa distance avec cette littérature qui se réclame désormais non seulement d'une étiquette occidentale, mais aussi d'une nouvelle forme éditoriale, somme toute étrangère. Les pionniers de la SF arabe sont dans l'ensemble connus dans les milieux critiques, par la qualité littéraire de leurs textes. Donc Tawfiq al-Hakim, c'est un éminent écrivain qui était lui-même critique littéraire, dramaturge, romancier et penseur. Abdeslam El-Bakkal est un célèbre poète marocain. Moussa Sabri, avant d'écrire Le Seigneur du Champ des Épinards, a écrit deux best-sellers de la littérature arabe, dont l'un a provoqué une crise politique au sein du Parlement égyptien. Donc le problème s'est posé quand on a commencé à parler d'étiquette et non pas de genre. Mais ce rejet ne cache-t-il pas derrière le rejet d'une occidentalisation de la littérature arabe, notamment en ce qui concerne les formes et les structures éditoriales? Sachant que la seule reconnaissance que l'utopie militaire a obtenue était outre-Atlantique, et plus précisément aux États-Unis, Nabil Farouk a été consacré à l'université de Virginie pour ses livres SF. Donc, l'auteur de cette collection a été primé aux États-Unis et non pas en Égypte, comme étant le meilleur auteur arabe pour la jeunesse, et c'est au département des études sur le Proche-Orient. Alors, les éditions spécialisées. En Égypte, on a l'édition donc, Fondation Arabe Moderne, donc cette édition-là. Et cette édition, cette maison d'édition, a édité 3 séries à la même époque, et à peu près, et sont arrêtées aussi à la même période, de 1984 à 2015, en mettant en avant une distinction nette entre les genres. Alors, on a la série de science-fiction Volée du futur, qui sont des textes écrits par Nabil Farouk, série fantastique intitulée Le surnaturel, et qui, dont les textes sont écrits par Ahmed Khaled Tawfiq, série policière L'homme de l'impossible, qui est une série écrite aussi par Nabil Farouk. Donc, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que cette maison d'édition a publié 3 séries différentes. Et qu'il n'y a plus de... Comment dire, on distingue très bien entre les 3 genres, il n'y a plus de croisement. On sait très bien qu'en lisant ce texte, on lit de la science-fiction. En prenant l'autre texte, on lit donc du fantastique. Et ça, je trouve, sur le plan conceptuel, c'est super important. Cette mise en place d'une conceptualisation claire au niveau éditorial est vraiment impressionnante. Et c'est vraiment le grand avantage de ces 3 collections. Mais les 3 séries se sont arrêtées entre 2012 et 2016. C'est vraiment regrettable. En série, on a une édition, l'édition d'Al-Fekr, donc dans cette maison d'édition d'Al-Fekr qui a publié tous les romans de Talb Amran. Il y en a à peu près une centaine. Et on a des éditions aussi du ministère de la Culture. On a la série science-fiction Talb Amran et Lena Kileni. Et donc ça aussi, c'est tout récent, c'est une nouvelle série de science-fiction qui est éditée par le ministère de la Culture en série. Et en 2016, on est au 15e numéro. Après, franchement, j'ai pas pu avoir d'autres informations, mais déjà, c'est la 3e série de textes de science-fiction. Aux Émirats, on a Script 5229, qui est une nouvelle édition spécialisée lancée en 2016 à l'occasion du Festival de la Lecture aux Émirats. Alors, elle a été lancée par qui? Par Nora, dont j'ai parlé tout à l'heure. La science-fiction arabe au cinéma, malheureusement, je n'ai pas de connexion Internet. Ça me frustre. Alors, la science-fiction arabe, cinéma et séries télévisées. En Égypte, en 1959, on a Voyage à la Lune par le réalisateur Hamed Abdelwahab. Là, ce qui est en bleu, hein, c'est l'affiche du film. Et dommage parce que dans le film, on retrouve des choses très très amusantes. C'est un film qui retrace l'histoire d'un voyage effectué vers la Lune. Et c'est très ironique, mais on retrouve la fusée, on retrouve. Les cosmonautes, et c'est vraiment extraordinaire. Et le savant concevoir la fusée, etc. Dommage, vraiment dommage. Hein, mais j'ai les liens, si vous voulez regarder, je vous donne les liens. Alors, on a Le vainqueur du temps en 1986. On a Le vainqueur du temps du réalisateur Kemal Shir. Je vous ai parlé tout à l'heure du roman. Et là, c'est la réalisation, à partir du roman. Donc ça aussi, c'est sur Internet, sur YouTube. En Tunisie, il y a une série télévisée, Tunisie 2050. On a connu trois saisons de cette série-là. Et cette série présente une vision futuriste de la vie en Tunisie. Projetée dans l'année 2050, elle traite des aspects sociaux et culturels, de leur évolution dans le futur. Et on voit ce qu'on voit, c'est une capture d'écran. On voit une Tunisie toute transformée, vraiment très très moderne. Là aussi, enfin, il y avait la bande d'annonce, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Court-métrage. En Tunisie, on a un court-métrage de 10 minutes, Clic, clic, boum. Projet d'une série, mais qui n'a pas abouti, donc on est resté au niveau du court-métrage, et qui imagine la Tunisie sous le règne terroriste de Daesh. Alors, je vous raconte juste l'histoire, c'est que on montre un jeune homme qui est enfermé dans sa chambre, qui mène toute sa vie via Internet et qui vit par simulation, même ses relations, tout passe par Internet. Il refuse de sortir à cause des attentats terroristes et un incident arrive et il est obligé de sortir. Il découvre que tout est en ruine, qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui bombardent tout, et c'est atroce. Mais à la fin, si c'est vraiment le règne de Daesh, oui, ça fait peur. Alors, par contre, oui, j'ai prévu, mais j'ai pas vraiment, malheureusement, j'ai pas pu montrer tout. Je vais juste vous en parler des conventions, des colloques SF dans les pays arabes. Pour les conventions, il y en a eu deux en Syrie, en 2007 et en 2009. Et puis ça s'est arrêté étant donné ce qui se passe en Syrie. Et donc, et la relève n'a pas été faite dans d'autres pays, ni en Tunisie, ni au Maroc, ni en Égypte. Pour les colloques, donc en Syrie, on a eu trois. En Égypte, on a eu à peu près 5 ou 6. En Tunisie, on a eu 3. Au Maroc, il y en a tous les ans une journée qui est consacrée à la science-fiction. Donc, c'est à peu près les informations que j'ai pu récolter de ce qui relève de la science-fiction tunisienne. Je vous remercie. De la science-fiction arabe. Je vous remercie.